Vänta ett ögonblick.
Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.
Du spelar ju schack, inte sant?
Hur vet du det?
Ja, jag har sett det på målningar och hört i visorna.
Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare.
Du kan ändå inte vara skickligare än jag.
Varför vill du spela schack med mig?
Det är min sak.
Det har du rätt i.
Villkoret är att jag får leva så länge jag står emot. Spelar jag det matt, friar du mig.
Eh bien, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, en direct de RTC, l'émission que tu aimes regarder dans ta petite radio à toi tout seul, personnellement à toi-même. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre la Scandinavie. Nous avions eu la Scandinavie 1, nous aurons la Scandinavie 2.
Il y a 9 volets.
Oui, c'est ça.
Bonjour.
Voilà, bonjour. Alors...
Bon appétit.
Voilà, nous avions
attaqué. Bon goûter pour les
enfants.
Oui, aussi,
oui, c'est vrai, puisque nous sommes mercredi.
Et dimanche, c'est bon apéro.
Voilà, c'est ça aussi. Ah oui, c'est vrai que c'est 18. Donc, nous avions attaqué la semaine dernière avec le petit ogre danois. Ensuite, nous avions fait la Finlande. Aujourd'hui, nous allons attaquer l'Islande, la Norvège et surtout le gros du gros, le sumo de la Scandinavie, la Suède. Alors, l'Islande.
Kenesses, c'est une île.
C'est vrai.
Oui, avec des volcans, oui. De la géothermie.
Oui, aussi, oui, oui.
Et Björk
aussi.
La célèbre Björk, oui, que oui, Gwen connaît sa fille personnellement. Ouais. Alors, le cinéma islandais est caractérisé par la nature particulière de sa production qui relève plus de l'artisanat que de l'industrie.
Oui, oui.
Merci. Longtemps confié à des passionnés capables d'hypothéquer leur propriété pour tourner un film. Ça, c'est beau. Hein. Le cinéma islandais se tourne depuis les années 2000 vers des longs métrages destinés à l'exportation. C'est la figure tutélaire. Non, c'est la figure tutélaire. Qui veut dire, Gwen?
Bah, de tête.
C'est bien, tu vois, quand tu veux. Le cinéma islandais reste friorique.
Frédéric?
Non. Reste Friorich pour Friorichsson. De nouveaux auteurs tendent à se faire connaître internationalement comme Balthazar Komakul ou Dagur Kari. Mmh. Je fais islandais en 8e langue. La première pierre donc, du cinéma islandais a été posée en 1906 par un Danois, Alfred Lindt, comme le chocolat, qui a tourné un documentaire de 3 minutes dans le pays. L'Islande étant à l'époque une possession de la couronne
danoise.
Oui. L'inauguration de la première salle de cinéma est fêtée cette même année à...
Reykjavik.
Non, Reykjavik. C'est cependant avec l'arrivée en 1919 de la compagnie Nordisk, hein, qui n'est pas un ferry, film de Copenhague pour le long métrage L'histoire de la famille Borg, qui n'est pas un tennisman, que le cinéma islandais commence à prendre forme sous l'impulsion des productions danoises. Ce film est une adaptation d'un roman de Gunnar Gunnarsson, il a cherché loin lui,
oui.
Écrit en 1914 et contient un conflit typiquement islandais, le tiraillement entre l'envie d'émigrer à l'étranger et le besoin de rester sur ses terres ancestrales. Le héros du film est joué par un acteur islandais. Les réalisateurs insulaires restent alors dans l'ombre des cinéastes danois et étrangers, bien mieux équipés techniquement et financièrement. C'est ainsi que Jacques de Baroncelli exploite les paysages de l'île en 1924 pour son adaptation de Pêcheur d'Islande de Pierre Loth.
Oui, alors effectivement, il y a une production récente depuis son indépendance en 1944 et qui s'est développée surtout depuis les années 80. Comme disait Hugo, l'Islande fut souvent qu'un décor. Les proscrits en 1918 de Sjöström et un James Bond dangereusement foutre.
Ah, bien ça.
Et oui. Entre les deux guerres, les pionniers du cinéma islandais n'ont réalisé que quelques films que grâce à la technique venue de Danemark. Bah oui, forcément. Les films étaient des documentaires ou des films d'un écrivain Gudmundur Kamban, qui adaptait certains de ses livres. Bah, carrément, lui, c'est bien, il faisait tout. Lui. L'indépendance provoque un sursaut culturel, mais les films restent rares. Oscar Gwalandson est le principal cinéaste, tandis que Loftur Gudmundsson réalise en 1923...
Oh, tu t'es trompé de ligne. Tu fais un retour en arrière qui est inadmissible.
Oui, non, mais je peux.
Non, tu n'as point le droit de faire ça.
Oui,
qui réalise... perd les lecteurs.
Donc l'Islande s'engage, donc, comme je disais, dans des coproductions. Le Suédois Arne Mattsson réalise Salka Valka en 1954. Gabriel Axel vient tourner La Mante Rouge en 68. On découvre Reinir Odenson et son histoire de meurtre en 1971. Mais il fait, hélas, carrière à la télévision américaine. 1979 est une année décisive, celle de la création d'un fonds d'aide au cinéma. Cette intervention de l'État repose plus sur une volonté d'expression culturelle nationale que sur un objectif de marché. Arf Gund Loxon, dont le premier film est contemporain de la réforme, se fait connaître par ses films de vikings et non de gladiateurs. Thorsten Johnson réalise Station Atomique en 1984, premier film islandais à Cannes. Grand échec commercial. Il ne pourra retourner qu'en 1994 où il réalise un film pour enfants, Le Palais Céleste. August Gudmundsson, auteur en 1980, La Terre et ses fils et la saga des Gisli, a tourné ensuite des comédies. Tian Bertensson est le plus prolifique. Il tourne 7 films. Entre 1980 et 97, sans compter évidemment les téléfilms, puisque la télévision toujours. Avec Sous les glaciers en 1984, Gundi Dortir réussit à adapter le difficile roman de Laxness, Les chrétiens du glacier. Également scénariste et productrice, et oui, Gundi, c'est une femme. Elle est l'auteur d'un film remarqué en Scandinavie, El Ekla. En 1992, Christine Palsdottir a réalisé Message à Sandra. Et Christine Johansen Dottir...
Message à Sandra, bien sûr. Sacré Gwen.
Sur Terre comme au Ciel, en 1992. Dans un pays où les femmes occupent de hauts postes, les réalisatrices sont nombreuses. On notera aussi Asdis Tonensen, Ragnhild Dur Oscar Dottir, a noté Frédéric Thor Fregenson, un autodidacte, a fait une percée à l'étranger avec Les Enfants de la Nature qui a reçu plusieurs prix à l'étranger. Une nouvelle génération s'impose. Balstar Kormakur, acteur-réalisateur, révélé en 2000 avec 101 Reykjavik avec Victoria Abril.
Je l'ai vu, les biens.
Suivi de La Mer en 2002. Va tourner deux films aux USA en 2005 et 2010 et adapte un roman policier d'Arnaldur Indrason, j'en parlerai plus tard à la fin de l'émission, de Jar City en 2008.
Donc c'est un film danois, islandais, allemand, hein, mm-hmm, pour trouver de l'argent. Donc inspecteur à Reykjavik, Erlendur, enquête sur le meurtre d'un vieil homme apparemment sans histoire. La photo de la tombe de la petite fille retrouvée chez la victime réveille pourtant une affaire vieille de 40 ans et conduit Erlendur tout droit à Char City, surprenante collection de bocaux renfermant des organes, véritable fichier génétique de la population islandaise.
D'accord. Donc il y a aussi Oscar Johansson qui tourne en 2008, soit un scénario d'Indrason Reykjavik, Rotterdam.
C'est en 2012 ça, monsieur. Hein. Donc ça s'appelle aussi Illegal Traffic, qui est un copier-coller, on peut le dire, du film Contrebande. Donc, c'est un film allemand, néerlandais, islandais. Là aussi, encore besoin d'argent.
Ah, mais toujours.
Donc, en Islande, donc, Christopher, un ancien contrebandier d'alcool, doit prendre du service pour sauver son beau-frère qui s'est mis à dos le plus gros trafiquant de Reykjavik et règle des problèmes d'argent. Il s'embarque donc pour un ultime voyage vers Rotterdam. Il y avait aussi Crime City, hein, de notre ami Balthazar Konafour, avec Julie Stiles, que tu as vu dans Bourne, les épisodes Bourne 2 et 3. Et aussi Forrest Whitaker. Donc c'est Holt, un expert en assurance, se rend dans une petite ville du Minnesota pour confirmer la mort de Kevin. Anderson, un artiste célèbre, mort dans un accident de voiture en allant rendre visite à sa sœur. En dépit des certitudes de la police locale, Holt n'est pas convaincu qu'il s'agisse bien du corps du défunt.
Aïe, 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 aïe. Il y a aussi Dagur Kari qui présente Noé l'Albinos en 2003, puis Dark House en 2005 et La Bonne Âme en 2009. C'est une production américaine. Ragnar Bragson, Les Enfants en 2006, Einar Thor Gunn Longson, Aidin en 2008. Et notre cher Solveig Anspach, établi en France, tournera Louise Michel, L'Insoumise en 2010 et Queen of Montréal en 2013.
Queen of Montréal ?
Montreuil, pardon, excusez-moi. Deux films qu'elle a tourné aussi dans son pays natal, Stormy Weather en 1999 et Back Soon en 2007. Les institutions islandaises et les sociétés privées comme celle de Fredriksson Icelandic Film tentent de développer les coproductions avec d'autres pays, surtout nordiques. En 1992, Légende du Nord, film composé de trois épisodes dus à trois réalisatrices. En Islande, Kristín Palldóttir, aux îles Féroé, Karin Ósdóttir et en Groenland, Maríu Olsson. Voilà pour ce qu'il en est de l'Islande. Ah, mon cher Hugo.
Vive Björk. Nous allons passer au célèbre cinéma norvégien.
Mm-hmm.
Donc moins connu à l'étranger que le théâtre de son pays, hein, Ibsen, Jon Fosse, Hamling. Le cinéma norvégien est longtemps resté centré sur le marché intérieur, alors que ses voisins immédiats, le cinéma danois, le cinéma suédois, voyaient très tôt leurs longs métrages appréciés hors de leurs frontières. La situation en Norvège a changé au cours de ces dernières années. Plusieurs films ont été nominés ou récompensés lors des grands festivals en 2006. La production nationale a battu les records avec la sortie de 21 longs métrages. La moyenne est plutôt comprise entre 12 et 20. Les films donc pour enfants et le documentaire font partie des spécialités du pays, notamment les cinémanes d'animation.
Oui, alors contrairement, comme tu disais, Hugo, la Norvège est dépourvue...
Parce qu'il n'y a pas l'orage.
Oui. Et dépourvu de traditions filmiques.
Filmiques
Oui, oui. Le pays qui a été le berceau des dramaturges assez importants, comme disait notre cher Hugo, Ibsen, Björnson, s'est contenté pendant de nombreuses années d'une production strictement nationale. Et oui, monsieur, dame. Le premier studio fut construit à Oslo en 1936, bien que quelques films eussent été tournés par la Christiana Film. La plupart des œuvres du temps du muet sont des drames paysans et des comédies populaires, parfois des adaptations du romancier Knut Hansson, La récolte en 1922, et Gunnar Sommelfeld, ou Pan en 1922, d'Arnald Schwarzen. Une singularité du cinéma norvégien des années 30 est la tradition d'un solide cinéma ouvrier, le seul de tous les pays nordiques. Appuyez sur l'organisation ouvrière et attention vos oreilles, ça va faire mal. Arbender Olisnigforbund. Le cinéaste Olaf Dargard a réalisé trois films de qualité internationale. Laken Breyet en 1938 sur les luttes dans l'industrie, les grèves ouvrières et la violence des conflits de l'année 1938. Date Drone Gemmenen Dalen en 1938 là aussi. Et Le jour se lève en 1939. Trois films qui sont influencés par le cinéma soviétique mais dotés d'un surprenant lyrisme. Darren Ibsen partit pour Hollywood en 1923 avec Schurstrom, dont il devient l'assistant et d'abord à la MGM, puis revient en Europe travaillant à Copenhague, puis dans son propre pays, où il signe en 1931 le premier film parlant norvégien, Le Grand Baptême. Il exercera jusqu'en 1951, après avoir mis en scène de nombreux films, drames, rustiques, comédies, thrillers, de qualité inégale, Le Gitan par exemple en 1937. Rasmus Breiten est un spécialiste des thèmes bucoliques et nationalistes. Anne, la gitane, décidément, en 1920, Jeunesse en 1938 et Knut de Trysil en 1942. Liv Stingin, auteur du premier film musical norvégien, et oui, pas que Dancer in the Dark quand même. Fanteguten en 1932, met son service à l'adaptation musicale Brave Gens en 1937 et la reconstitution historique Glishudsdottir en 1938. Tous les films se font en 38. Ayant accepté de travailler comme directeur du cinéma norvégien alors que son pays est envahi par l'occupant allemand, il ne parviendra à retrouver de travail que de longues années après la fin de la guerre. La nuit des sorciers en 1954. Au début des années 40, le film d'Eg Lund, Aitaiga, La femme aux ailes, Bastard, en 1941, est sélectionné au Festival de Venise. Alfred Hitchcock donne quelques espérances. Mais les réalisateurs les plus doués sont Thorlaf Sand, Le voyageur d'Angleterre en 1946, et Arne Skouen, surtout journaliste et romancier qui débute en 1949 avec Les enfants des rues, qui s'intéresse à la vie quotidienne pendant la guerre, aux problèmes sociaux. Quelques réussites, Atterrissage forcé en 1951, Le rescapé, Neuf vies, 1957, ou au sujet de Tila en 1963. À la fin des années 50 et au cours des années 60, ils forment une génération de transition. Eric Loken avec La Chasse en 59, Neil Reindert Christensen, Les Démons Passionnés en 61 et Rolf Clemens, Climat en 65. C'est surtout au début des années 70 que le cinéma norvégien soutenu par l'État qui s'engage à garantir jusqu'à 90% du budget du film approuvé commence à s'affirmer sur le plan international. La plupart des salles appartiennent aux conseils municipaux ou à l'administration locale et sont gérées comme autant de services publics. Il n'existe pas de réseaux commerciaux d'exploitation. Les gérants des salles peuvent donc choisir librement leur programme. Cet appui des pouvoirs publics a probablement permis à une nouvelle vague de cinéastes d'approfondir un certain réalisme critique, jusqu'alors voilé par les abus des conventions narratives. Ainsi, Anja Breen, Wife en 1975, L'héritage en 79 et La persécution en 81. Odar Bull, Tous, Grève avec point d'exclamation en 1975, La peur en 76 et 50-50 en 82. Père Blom, La maison de maman en 74, Les femmes en 79, Le palais de glace en 87. Knut Andersen.
Encore ? Ils sont pleins de Knut.
Ils aiment beaucoup le Knut là-bas. J'avais 15 ans en 76. Laila Mikkelsen, La moisson et la petite Ida en 81. Les films de Neil Goop, Le passeur 87, dont le titre original est Vervensen et Oflas en Lapon, est le premier film tourné dans cette langue parlée par une minorité de quelques dizaines de milliers de personnes. Une nouvelle vague de réalisateurs débarque fin 80 grâce aux aides publiques et au goût du public pour les films nationaux, à la coopération avec les pays voisins et un accroissement notable du nombre de films produits depuis 91. Après Anja Breinen et la très revendicatrice Wiebke Lockenberg, Uni Strom est une des représentantes les plus marquantes d'un cinéma qui compte beaucoup de femmes parmi ses plus fortes personnalités. Elle fait un film très personnel en 90, Cher inconnu, puis un film littéraire d'après Steinberg, Le songe en 94. L'actrice norvégienne Liv Ullmann, célèbre pour sa participation à quelques grands films du voisin suédois Bergman, a réalisé en Norvège Christine Lervas, date 1995, après Sophie, tournée au Danemark. Birgit Nissem, quant à elle, se consacre avec un goût très sûr et une énergie remarquable au film pour enfants, une production aidée par le gouvernement comme au Danemark. Parmi les autres cinéastes apparus au début des années 90s, figurent Erik Gustafsson, le télégraphiste, 92, Thomas Robson Tonjatzi, le fils de l'acteur Hugo Tognazzi et d'une réalisatrice norvégienne, Rebelle sans cause en 92 et SOS en 99. Knut, on n'y rachète pas donc, Erik Janssen, Stella Polaris en 92, Marius Holst, Croix de bois, Croix de fer, en 95, Erik Solg, oui, là aussi des Erik en a beaucoup.
Il n'y a pas une Knut qui s'appelle dans Alien, petite fille, elle s'appelle Knut.
Skoldbjerg, dont L'Insomniaï 97, un thriller psychologique qui fut un succès international et dont Hollywood a fait un remake avec Al Pacino et Robin Williams en 2002. Bent Hamer est un des nombreux cinéastes qui s'affirment dans les années 2000. Tout en 2002 avec la très particulier et très originale Kitchen Story. Le grand succès du début de la décennie est Helling de Peter Noyes en 2001. Sur le parcours de deux handicapés vers l'autonomie et une hypothétique intégration sociale. L'humour de Naenes est l'un des espoirs du cinéma norvégien et de nouveau célébré avec la sortie de Bear en 2004. Alors, il y a aussi Paul Stelton et Erik Skolberg. Le premier dirige une belle adaptation de la pièce d'Ibsen, Un ennemi du peuple, en 2005. Et Stella présente Nober, en 2005 aussi, un essai qu'on a comparé à David Lynch sur des connexions mystérieuses entre voisins supposés être totalement étrangers les uns aux autres. On découvre Erik Poppes dans Hawaii Oslo en 2004, qui est une brillante variation sur les aspects multiraciaux de la capitale. Janslen avec Johnny Wong en 2003, surprenant récit sur un triangle amoureux. Axel Heini, un jeune acteur très connu, a réalisé un premier film dont il est l'acteur principal, Uno, en 2004, sur des contradictions entre le travail et la vie de famille. Il est aussi le protagoniste d'une comédie rose, puis noire, se déroulant dans un salon de coiffure dirigé par une autre débutante, Annette Sjogrensen, La jalousie de mon coiffeur, en 2004. Oh, quel titre! Moi, ça m'inspire tout de suite. En 2008, un film à gros budget consacré à un héros de la résistance, Max Manus, réalisé par Joachim Rønning et Ibsen Stenberg. Un film qui a battu les records d'audience du cinéma nationales. Et là, messieurs et mesdames, je me tourne vers mon collègue et animateur Hugo et on va s'attaquer à la Svenka.
Non, c'est pas ça. Moi, je voulais juste vous parler de Baby Call, est un film donc norvégien, germano-suédois.
Mm-hmm.
Parce que, bon, il faut le dire, hein, quand même, l'Allemagne et la Suède sont souvent dans...
Oui, hein, c'est vrai.
On en a parlé la semaine dernière aussi. Donc, réalisé par Palle Slåtten. Donc, c'est Anna qui vit seule avec son fils de 8 ans qui lui a été confié suite à sa séparation d'avec son mari, homme violent ayant torturé son enfant. Devenue très protectrice, elle décide d'acheter un babyphone afin d'entendre son fils la nuit. Mais très vite, ce sont des voix venant d'un autre babyphone voisin qu'elle entend, des cris, des pleurs, des SOS. Non, ça n'a rien à voir. Son univers donc commence à vaciller pour tomber lentement dans la folie. Donc, la dame, elle est jouée par Noomi Rapace.
Ah, ça tombe bien, parce qu'on va parler de la Suède.
Donc, voilà, maintenant, Swedish. Sortez vos crisps.
Voilà.
Ça va croustiller.
Et pendant ce temps, vous pourrez monter votre meuble.
Pour tout meuble monté, t'as droit à une tarte au caca.
En 1894, la Schnellerscher apparaît pour la projection de vue animée due à l'allemand ottoman Unchus.
Tu n'écorches pas les noms. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est puis, pas facile, oui, mais tu je vas sais. Y archiver.
Puis, 3 mois plus tard, le kinescope d'Edison sont présentés au public suédois. En juin 1896, à l'occasion de l'exposition universelle de Malmö. On projette quelques films tournés par les frères...
Lumière.
Voilà, ils sont toujours là, ils sont toujours forts. Voilà, c'est ça. Je suis ta lumière. En 1897, Promio, l'un des plus célèbres opérateurs itinérants de la maison Lumière, filme l'arrivée du roi Oscar II à l'exposition du Jubilé inaugurée à Stockholm. Il initie à la technique cinématographe Carl Ernest Florman, le fils d'un photographe de la cour. Décidément, c'est photographe de la cour, hein, qui devient ainsi l'un des grands pionniers du cinéma suédois. Deux autres pionniers sont l'illusionniste danois Neil Jacobsen, oui, et l'opérateur Robert Olsson. Olsson. Mais la véritable naissance du cinéma suédois se situe en 1909, l'année où Charles Magnusson, le très dynamique directeur de la Svenska Biograftheatern, lance sur le marché scandinave un film de 425 mètres, Les gens de Varmland, tourné par un acteur de théâtre, Carl Engdahl, et adapté d'une opérette célèbre de Dahlgren. C'est un grand succès. Magnusson cherche à étendre la renommée de sa firme. Il engage en 1910 un metteur en scène de théâtre, Gustav Linden, dit Muck Linden, et surtout un excellent opérateur, Julius Johansson, qui vient de participer au premier film de fiction norvégien, Un drame de mer, en 1908. Puis fait appel en 1911 à deux acteurs, Victor Sjöström et Moritz Stiller, qui vont rapidement devenir les réalisateurs les plus doués de leur époque. D'abord fortement influencés par le cinéma danois, et oui, les voisins, les productions se tournent dès 1912 vers les thèmes plus nationaux. Plusieurs pièces de Strindberg, Mademoiselle Julie et Le Père. En 1912, la Svenska Bio entreprend 25 films. Mais dès 1913, l'année où Sjöström signe son premier grand film, Ingeborg Holm, l'esprit du cinéma suédois s'incarne tout entier dans ces deux noms, Sjöström et Stiller. La Première Guerre mondiale réduisant considérablement le cinéma allemand, italien et donc français, cela donne un sacré coup de pouce à la production suédoise.
Il faut le dire parce que la Suède était neutre. Hein.
Oui, tout à fait. Donc pendant une dizaine d'années, Victor Sjöström et Maurice Stiller s'imposeront non seulement sur le plan national par la qualité et l'originalité, leur réalisation, mais également sur le plan international en influençant d'innombrables artistes européens. Notre duo détonnant s'inspirant des grandes sagas scandinaves, les amples romans de Stellan Lagerlöf, les voix des Les voix des ancêtres en 1918, la montre brisée en 1919, la chandelle fantôme en 1920, Pochtostrum, le trésor d'Anna en 1919, le vieux manoir en 1922 et la légende de Gösta Berling pour Monsieur Stiller, ou les œuvres des grands prestateurs nordiques, qu'ils soient finlandais comme Linnankoski dans les remous de Stiller ou Anno à travers les rapides en 1920, norvégiens comme Ibsen, Tengving de Strömu en 1916, islandais comme Sigur Johansson, que cela est délicieux à ma bouche, les proscrits en 1917.
Ça va pas, non.
J'adore tous ces noms. Suédois comme Hjalmar Bergman, l'épreuve du feu en 1921 et le vaisseau tragique évidemment aussi en 1922. Sturzum et Stiller entremêle avec bonheur un réalisme précis et volontiers moralisateur et par le truchement de savants retours en arrière et de surimpression, un onirisme parfois mélancolique et sentimental, parfois symbolique et grave. Sjöström est davantage attiré par un lyrisme panthéiste, alors que Stiller donne ses premières lettres de noblesse à la comédie sophistiquée vers le bonheur en 1920, où s'illustrera quelques années plus tard un certain Lubitsch. La Svenska Bio fusionne avec sa rivale la Skanda et se métamorphose le 27 décembre 1919, où j'y étais, hein, en Svensk Film Industrie. Pourtant puissante, ce complexe cinématographique va subir les conséquences de la crise économique dont profitent immédiatement les compagnies américaines. Inquiète de cette influence, à juste titre, en Europe, des cinéastes scandinaves, Victor Sturzum et Moritz Stiller, les acteurs Lars Hansen et Greta Garbo, qui étaient toutes jeunes à l'époque, vont s'exiler à Hollywood. Broyés par le système hollywoodien et transplantés dans un monde où leur talent ne parvient pas à s'exprimer pleinement, les deux réalisateurs ne retrouveront que fugacement la chance de tourner un film important. Sturzum, en 1928, tourne le film. Alors celui-là, il faut le regarder. Hein. Il est magnifique. C'est avec Liliane Guiche.
Comment il s'appelle, le film ?
Le vent.
Ah.
Le vent. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une nana qui accepte d'épouser un cowboy.
Un cowboy,
voilà. En fait, il s'installe dans un pays où il y a tout le temps du vent. Et c'est vraiment, ce vent est très, très présent tout au long du film. Et à un moment, il y a un mec qui va essayer de lui sauter dessus. Elle le tue et elle l'enterrera grâce à son époux, et c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. C'est beau. Donc, et le film dure, alors attention, 2200 mètres, ce qui équivaut à 1h21. Donc, je vous laisse calculer combien fait le mètre.
C'est le problème de moi.
Voilà, c'est ça.
C'est comme le train qui apparaît et qui arrive.
Voilà, c'est ça. Stiller se heurtera à l'éminence grise de la MGM, Irving Thalberg, qu'il congédie du plateau de Torrent en 1926. Stiller reviendra en Suède pour y mourir.
C'est triste.
Eh oui. Le départ du duo effacera pendant quelques années la présence de la Suède sur la scène mondiale. Quant à Magnusson, il se voit contraint en 1928 d'abandonner la direction de la Svensk Film Industrie. Production nationale et exportation d'acteurs comme Ingrid Bergman. Ce n'est qu'en 1940 qu'apparaissent les premiers signes d'un renouveau avec un crime. Dansen Eriksson, et oui, là on attaque les Tson, et avec la vie pour enjeu d'Alf Sjöberg. Ce dernier sera le chef de la file de ce renouveau en tournant Le Chemin du Ciel en 1942 et Tourment en 1944, dont le scénario est dû à un jeune homme, Ingmar Bergman. En 1942, Carl Anders Dimling, déjà directeur de la radio suédoise, prend le contrôle de la Svensk Film Industrie et s'assure la collaboration de diverses personnalités. Cette politique ne tarde pas à porter ses fruits. Molander signe plusieurs œuvres comme La Chevauchée Nocturne en 1942, La Parole en 1943 et La Femme sans visage en 1947. Scénario Ingmar Bergman. Amp Faustman, observateur acide dont le film souligne les injustices sociales de la société suédoise, ou beaucoup de S. Quand les prairies seront en fleurs en 1946, Port étranger en 1948. Hans Ekman, qui privilégie les comédies pétillantes où il joue souvent le premier rôle de jeune premier. Mais c'est aussi aborder les thèmes les plus dramatiques. Le suicide, l'un des thèmes phares du cinéma suédois. Par exemple, dans La fille aux jacinthes, en 1950, le triomphe international de Mademoiselle Julie, que Schoenberg adapte de la pièce de Strindberg, et le succès commercial de Elle n'a dansé qu'un seul été, d'Arne Mattsson, rendent à la Suède sa place d'antan. Un metteur en scène des théâtres qui signe depuis 1945 des films prometteurs sans pour autant voir sa réputation dépasser au-delà des frontières de son pays s'affirme comme l'un des personnalités les plus convaincantes. Ingmar Bergman. L'œuvre, influencée par un réalisme poétique assez pessimiste, oscille ensuite entre plusieurs thèmes obsessionnels. Certains sont d'ordre métaphysique, le septième sceau. Alors qu'est-ce que le septième sceau? Le chevalier Bloch, qui n'est pas une arme, et son écuyer Jones reviennent des croisades désenchantés. Ils ont vu Mylène Farmer. Ils parcourent un paysage sinistre dans un pays d'Europe indéterminé. La peste fait des ravages. Les chrétiens se posent des questions.
Certains, s'il te plaît,
oui, certains organisent des cérémonies de flagellation pour expier le péché du monde. Des filles sont brûlées comme sorcières. Des moines défroquent. Au sein de ce chaos moral et spirituel, le chevalier avance à tâtons, et pas à teutons. Hein. Saisi du fameux doute existentiel, son écuyer qui est plus cynique, il ne croit en rien de céleste. Au cours de son voyage, le chevalier rencontre un personnage inquiétant et redoutable. C'est la mort. Elle attend Bloch. Elle cherche à différer le moment fatal en proposant une partie d'échecs, la fameuse partie d'échecs, à cet interlocuteur qui revête plusieurs identités et qui sait qu'il va gagner. Au cœur de la misère et du désespoir, une clairière, un groupe de forains qui ont gardé la candeur et la faculté d'émerveillement de l'enfance. C'est Joff, sa femme Mia et leur baby. Ils représentent l'espérance. Mais quand le chevalier retrouve son château, c'est pour prendre la tête d'une danse macabre. Je sais pas si tu te souviens de cette scène dans le Last Action.
Pas né.
Non, mais dans le Last Action Hero.
Oui.
Avec Arnold Schwarzenegger. Tu vois, c'est la mort qui revient. Donc pour dire qu'il a quand même marqué ce film. Donc en 1956, les Communiants en 1960. C'est fini, Otomo là. D'autres s'attachent à l'analyse corrosive et satirique de l'incommunication du couple. La nuit des forains en 1953, une leçon d'amour en 54, sourire d'une nuit d'été en 55. Après une trilogie où transparaît l'inquiétude d'un auteur conscient des contradictions et des angoisses de son époque à travers le miroir en 61, les communions en 62 et le silence en 63, Bergman approfondit encore ses recherches dans des œuvres plus austères mais tout aussi tourmentées comme Personne. En 66, L'heure du loup. En 67, La honte en 68 et Une passion en 69. En 72, il remporte un immense succès dans la plupart des pays avec Cris et chuchotements. Oui. Triomphe qu'il renouvelle en 74 avec Scène de la vie conjugale, série de 6 émissions de télévision qui est ensuite projetée sur les écrans du cinéma dans une version abrégée en 78 avec Sonate d'automne. Certes, Bergman règne en maître sur le cinéma suédois, mais il crée des émulations. Au début des années 60, la production suédoise tombe sous la menace d'une taxe sur les spectacles. La télévision menace aussi le nombre de films produits annuellement, qui tombe de 40 pendant la Seconde Guerre mondiale à 17 en 62. Le critique de cinéma Harry Schern décide le gouvernement d'abandonner la taxe de 10% sur chaque place de cinéma vendue.
C'est pour ça qu'est cette... créé l'Institut suédois du film en 1963 afin de promouvoir et de développer l'industrie cinématographique suédoise. Donc il est logé dans un bâtiment.
Donc, c'est vrai, oui. pas sur Internet.
Parce qu'il y a pris à Glagla. Donc l'Institut suédois du film promeut la création de films suédois et octroie des subventions pour la production, la distribution et la projection publique des films suédois en Suède. Il fait également la promotion du cinéma suédois à l'international. De plus, l'Institut organise chaque année les Gumbag Awards. T'en as pas eu de ça, hein?
Non, j'en ai pas eu.
C'est pas grave. Avec les accords suédois du film entre l'État suédois et l'industrie du film et les médias, le gouvernement suédois, les sociétés télévisuelles qui ont pris part à l'accord et les propriétaires de salles de cinéma en Suède financent conjointement l'Institut suédois du film et ainsi indirectement la production de films suédois. Voilà des gens intelligents.
Tout à fait.
Donc l'accord actuel est valable du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2012, Gwen. Il faut que tu repayes ta cotisation.
Il n'y a pas de souci. Donc effectivement, il y a un nouveau système de récompense qui est mis en place et qui stimule la production ainsi que la coproduction comme masculin-féminin de Jean-Luc
Mélenchon,
Godard et les créatures d'Agnès
Jaoui
Varda. C'est notre période, Mr. T. Une nouvelle génération apparaît comme Beau Widerberg, dont les articles militants et acides avaient critiqué les idées étroites du cinéma nordique sans même épargner Bergman.
Assassin.
Eh oui, Widerberg condamne le cinéma vertical du maître suédois dans lequel l'homme est humilié ou exalté. Beau Widerberg ou ses collègues commencent à tourner sur une Suède contemporaine. La technique laisse en place à l'improvisation, une sorte de nouvelle vague à la suédoise en somme.
Tout à fait.
Les quartiers du Corbeau de Widerberg en 63 se déroulent à Malmö.
Prisonnier... T'as pris un accent suisse, c'était horrible.
Ah, oui, bah je sais. Only facility. Alors, donc, se déroule à Malmö dans les années 30. Les personnages prisonniers de leurs conditions sociales n'ont pas le temps de se poser des questions métaphysiques comme dans certains films de Bergman. Dans Un mot en 65, en 65, le réalisateur Kiev, alter ego de Widerberg, fait référence à Godard, à Antonioni, surtout en ce qui concerne la mise en scène. Le premier film de Jörg Donner, Un dimanche de septembre 1963, traite des difficultés de vivre dans une société bourgeoise et du trouble psychologique dû à un avortement. Le monde de Donner est froid et pessimiste. La menace du cancer et l'inévitable échec du mariage reviennent en leitmotiv. Vilgot Sojman cherche, lui, à tirer profit de la nouvelle liberté de l'industrie cinématographique. Si son premier film, La Maîtresse, en 62, reste assez anodin, aussi bien dans sa forme que dans son contenu, Ma sœur, mon amour, en 65, surprend par son audace le thème de l'inceste au XVIIIe siècle. Deux ans plus tard, le cinéaste choque la Suède et même les États-Unis avec deux volets. Je suis curieuse. En 1967 et 1968, une étude rigoureuse et controversée sur les conditions sociales suédoises. Les Suédois se sont noyés dans une certaine autosatisfaction après 30 ans de régime démocratique. Sojman dit courageusement qu'il existe des failles dans le système. À cette époque, les films traitent très ouvertement du sexe, provoquant de nombreuses réactions indignées dans le monde entier. C'est les fameux films suédois à l'époque. Sojman présente les rapports humains avec crudité et tourne résolument
crudité.
Le...
Crudité.
Oui.
J'ai fait des salades.
Tout à fait. Et tourne résolument le dos au romantisme. Il aura moins de succès.
Point le dos.
Voilà. Il aura moins de succès par la suite. Cependant, il continuera à jeter un regard critique sur l'histoire suédoise, ses institutions et les comportements de ses concitoyens. Elvira Medou de Widerberg, 1967, marque le sommet de la popularité du nouveau cinéma suédois et est acclamée dans les festivals internationaux. Sous une apparente délicatesse narrative, le cinéaste juge sans tendresse excessive le comportement de ses personnages, condamne le jeune couple qui se suicide plutôt que d'accepter les contraintes de la société. Adelaine en 1969 et Joe Hill en 71 confirment l'approche socialiste de l'injustice par Widerberg. Jan Trollen dans son diptyque de film.
Oui,
les immigrants, compris, 71, quoi. Oui, et le Nouveau Monde en 72, qui sur l'essor des immigrants suédois en Amérique du Nord, ils reçoivent un accueil chaleureux en Suède et ailleurs. En 1972, une réforme du cinéma voit le jour. Elle change la ligne d'action de l'Institut afin de relancer la production. Elle oblige à trouver des moyens financiers avant de tourner le film. Eh oui, 10 pognons d'abord.
C'était une bonne pâtisserie, oui. Le financier.
Oui, les primes à la qualité décennées annuellement sont réduites en valeur. Les nouveaux scénarios sont encouragés. Le public commence à refuser les visions très personnelles des plus jeunes réalisateurs. Beaucoup d'entre eux refusant toute participation des producteurs ou même d'écrivains extérieurs à leur travail. Durant quelques années, la télévision suédoise coopère avec l'Institut en produisant de nombreux films. La situation devient grave. Les exportations, autrefois l'orgueil du cinéma suédois, sont pratiquement nulles. Bergman, poursuivi par les impôts, file à l'étranger. Allez hop, et oui, comme Gérard. Le cinéma suédois essaie à grande peine de sortir de cet abîme. films. Malgré quelques films, Sally et la liberté de Gundel Ludboom en 1980 ou L'île des enfants de Kay Pollak 1981, une étude complexe de l'adolescence. Malgré tout, le cinéma suédois n'est plus à la mode. Ich bin à la mode. Les réalisateurs ont des facilités et des opportunités en Europe. L'inspiration et le véritable talent font défaut. Bergman revient en tournée en 1981, Fanny et Alexandre, sur quatre plateaux avec 1000 techniciens. Œuvre isolée d'un auteur mondialement connu qui revient au bercail. Le cinéma suédois traverse une crise. Crise d'auteur, crise morale et financière. Rare réussite, Amorosa de Maj Zetterling en 1986. Ma vie de chien de Lars Hallström la même année. Les frères Moser, Suzanne Osten. Le chemin du serpent de Bo Widerberg. Hip hip hip, hurra! De Kjell Gred en 87. Nuit d'été de Gunnel Ludblom. Terre de rêve de Jan Trollen en 88. Cela masque très probablement l'incertitude devant laquelle se trouve le cinéma suédois. La génération qui devait succéder à Bo Widerberg, Trollen, tendent à venir. Le public boude les productions ambitieuses et préfère les productions américaines, bien sûr. On intensifie les coproductions, quitte à perdre son âme. Fréquemment engagés dans les thématiques historiques, sociales, écolo, les cinéastes les plus expérimentés continuent de se faire entendre. Suzanne Osten réalise L'Ange Gardien en 90, Seulement Toi et Moi en 94. Kjell Gred, Bonsoir Monsieur Wallenberg en 90, Jan Trollen, El Capitano en 91, Vilgot Joschmann entreprend un film sur Alfred Nobel, vous savez celui qui a fait les prix. Là.
Sa fille c'est Chantal, Chantal Ballon.
Voilà c'est ça, merci Sacha Distel. Et Bo Widerberg, après un long silence, revient au cinéma en 95 avec Lust Ost van Grindstor. Et oui, c'est tout un film. L'actrice Anne Zaknias, bien connue en France, où elle travaille plusieurs années, a réalisé à Stockholm en 1987 Le Test, un film en langue française. Les années 2000 arrivent, alléluia!
Oui, alléluia!
Le passé est encore très présent dans le cinéma suédois. Si Bergman a fini sa carrière cinématographique, il présente à la télévision l'une de ses œuvres les plus fortes, Sarabande, en 2003. Probablement le plus grand film suédois du début du siècle. Un autre vétéran, Jan Trollen, signe un film poétique basé sur la vie d'une de ses proches, Les moments éternels de Maria Larsson, en 2008. Roy Anderson, Nous, les vivants, après son succès en 1999, chanson du deuxième étage.
Puisque tu parles de Mr. Roy Anderson, parce que c'est la relève. Hein. Il faut le dire, donc, qui est un réalisateur suédois, hein, parce que ça, tu ne l'avais pas dit. Reconnu pour ses plans séquences tournés en studio comparables à des tableaux vivants, ses films sont principalement froids, lugubres et emplis d'humour noir. Il n'a réalisé que 4 longs métrages en 40 ans, dont un primé par le jury à
Cannes.
Oui, la majeure partie de son travail a été consacrée aux publicités et à l'élaboration de sa propre maison des productiones qui s'appelle le Studio 24.
Il y a Marie-Louise Ekman, qui est aussi peintre, qui revient en 2001 dans Pudeur 2000, sur le vieux thème théâtral du narcissisme des acteurs, traité avec entrain et dérision. Même si la production suédoise se caractérise plus par la quantité de films que par la qualité, on peut signaler Bjorn Range dans Daybreak en 2003, qui brasse plusieurs destins individuels dans une ambiance pessimiste, décidément. Jane Johnson rencontre l'histoire d'un jeune voyou du Grand Nord suédois, le roi du ping-pong en 2007. Johan Kling Darlin en 2007, une tragicomédie. Ruben Östlund, Happy Sweden, dénonciation féroce du conformisme en 2008. Thomas Alfredson, Morse, un curieux film de vampires romantiques. Et oui, il y a aussi des vampires en Suède. Le genre criminel reste productif.
Oui.
Le genre s'est affirmé en Suède avec une adaptation par Bo Widerberg d'un roman des fondateurs du roman policier national, Mage Chauval et Per Valou. Un flic sur le toit en 76. Le héros de la série, Martin Beck, a été suivi par Kurt Wallander, création de Henning Mankell, puis les personnages de Millennium, écrits par Stig Larsson.
Donc, Millennium est un suéda suédois d'Anoa, réalisé par Nils Anderhopleff. sorti en 2009. C'est l'adaptation donc du premier volet de la trilogie Millennium de, comme l'a dit Gwen, Stieg Larsson, best-seller international. Il est suivi de Millennium 2, la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, puis de Millennium 3, la reine dans le palais des courants. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, The Girl with Dragon Tattoo, 2011, réalisé par David Fincher, tiré du même roman, hein, puisque les acteurs principaux du Millennium suédois étaient... Non, je vous dirai pas, c'est trop dur. Le synopsis m'a vite fait bien fait. Journaliste économique pour le magazine suédois Millennium, hein, revue d'investigation sociale et économique, Michael Blomqvist est cassé. Merci Nolwenn. Par un procès en diffamation qu'il vient de perdre, il est néanmoins contacté par un gros industriel pour relancer une enquête abandonnée depuis 40 ans. Dans le huis clos de l'île d'Edby, Harriet, la petite nièce de Henrik Wenger, a disparu. Probablement assassinée, et quelqu'un se fait un malin plaisir de le rappeler à l'industriel à chacun de ses anniversaires. Secondée par Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et écorchée vive, placée sous tutelle mais aqueuse hors pair, Michael Blomqvist va se plonger sans espoir dans les documents 100 fois examinés jusqu'au jour où une intuition lui fait reprendre un dossier. 5 noms et 5 numéros auxquels la fille de Michael va trouver la signification qui avait échappé à tout le monde pendant un quart de siècle. Au gré donc des méandres, des haines familiales et des scandales financiers, l'enquête ne fait que commencer.
Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Millennium, le premier, il a été fait pour le film, et que les deux autres versions suédoises ont été faites en téléfilm. Alors, effectivement, c'est vraiment dans la veine des auteurs de polars scandinaves, donc Stieg Larsson.
Une littérature riche. Hein,
oui, très riche. Oui, Arnul Indemnsson, qu'on avait d'ailleurs parlé dans l'émission précédente. Henning Mankell, qui est le gendre d'Igmar Bergman. Hein, bon, voilà.
C'est en famille.
Voilà, et c'est les fameuses enquêtes de Kurt Wallander. Je me semble que Arte en avait fait séries avec...
Oui, oui.
Comment il s'appelle?
C'était suédois, ça? Je voyais plus ça british. Ah, Inspecteur Wallander, non? C'était
ouais,
pas ça qu'il avait transformé?
Oui, non, mais c'est Kurt Wallander, Et donc, qui tournera entre République sud-africaine et la Lettonie, et surtout dans le sud de la Suède. Il y a Joe Nesbo, avec son personnage de Harry Hole. Hack Ederson, donc le personnage d'Eric Winter, ça, je dis les auteurs. Il y a Yuji Alder Olsen, donc les enquêtes de l'inspecteur Karl Mork. Il y a aussi Lisa Markkund, elle possède Pirate Folgen, qui est l'une des plus célèbres maisons d'édition et dont deux de ses romans ont été faits en film. Il y a Gunnar Sterben, Le loup dans la bergerie, L'écriture sur un mur, le personnage de Varg Vuhm, ancien salarié de la protection de l'enfance, devenu détective privé après avoir eu la main un peu trop lourde sur un dealer. Et la plus connue en ce moment, c'est Camilla Läckberg, donc le prédicateur, l'oiseau de mauvaise augure et la princesse des glaces. Et puis il y a aussi Lars Klemper, donc l'hypnotiseur, qui sortira en 2013 et qui sera fait par Al Holström. Alors, pour finir avec le cinéma suédois, maintenant, c'est surtout des films tournés par des immigrés qui ont obtenu un certain succès artistique, dont ceux du libano-syrien Youssef Fanes, Jala Jala en 2000, Reja Parsa, Suzanne Talmini et Reja Bager. Donc ce dernier, né en Iran, a adapté le roman finno-suédois de Vitula Pop Music, situé dans une petite ville frontière dans les années 60. For Stormen, le premier film de Reza Parsa, met en scène un chauffeur de taxi sur fond de terrorisme et aussi une critique des contradictions morales de la société du bonheur suédois, entre guillemets. Ces films rejoignent une tendance générale qui consiste à illustrer à l'écran les thèmes sociaux de la littérature, notamment le sort des femmes jeunes et celle des immigrés longtemps absents des écrans.
Oui, donc, puisque tu en as parlé, moi je vais en parler un peu plus profondément de l'hypnotiseur, donc de Lasse Hallström avec Michael Persbrandt, Lena Olin et Tobias Ziliak. Une famille donc est retrouvée sauvagement assassinée dans une maison de la banlieue de Stockholm. Laissé pour mort, Joseph, le fils aîné, devient le seul témoin du crime. Donc dans le coma, il ne peut être interrogé par l'inspecteur Yuna en charge de l'enquête. Donc pour progresser, Yuna demande à Eric Maria Bark, hypnotiseur de tenter un contact avec le garçon. Alors qu'il devait ne plus jamais utiliser ses dons, Eric accepte et s'aventure dans l'exploration du subconscient du garçon. Donc ce film se révèle d'une efficacité d'autant plus redoutable que Hallström se concentre sur son récit riche en surprises, sans le parasiter par des affecteries inutiles de mise en scène. Donc ce souleur repose, comme on l'a dit, sur la psychologie des personnages.
Moi je voulais terminer aussi parce que c'est vrai que pour nous le cinéma scandinave, bon, à part évidemment les films de Bergman et autres, ça reste quand même un petit peu lointain. Alors, c'est vrai qu'il y a des acteurs comme Ian Mikkelsen, Michael Lindquist qu'on a vu dans Mission Impossible, Protocole Fantôme, Millennium, les actrices comme Björg, Dancer in the Dark, Liv Ullmann, Noomi Rapace dans Millennium, Malin Ackerman qu'on verra dans Ten avec Arnold Schwarzenegger et Stolen avec Nicolas Cage et qu'on a vu dans Rock Forever avec Tom Cruise, le fameux film sur le hard rock, surtout dans Watchmen, Les Gardiens, c'est la fameuse, celle qui ressemble surtout à Xena la guerrière. Il y a Dolph Lundgren qui évidemment était suédois, hein, qu'on a vu dans les Expendables 1, 2 et bientôt 3. Peter Stonemast, qu'on verra dans Hansel et Gretel. Constantine, qui joue le rôle du diable. Il a vraiment un physique, lui, puisqu'on voit dans Frère Grimm, dans The Million Dollar Hotel. Et c'est le fameux russe dans Armageddon. Évidemment, il y a Mark Van Storm, qui jouait dans Le Septième Sceau et dans Dune. Ingrid Bergman, Greta Garbo. Et évidemment, aussi Anita Ekberg, qui jouait dans Guerre et Paix de King Vidor en 1956. L'ex-femme de Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen. C'est vrai que là, sur les deux émissions, on a essayé de faire tous les pays scandinaves à son maximum. C'est vrai que ça a été assez difficile, surtout pour dire tous les prénoms et les noms de famille, mais c'est pas grave, on a quand même tenté. Donc voilà, c'est vrai que c'est des films qui ont eu surtout un succès à une certaine période d'Ingmar ou surtout la période danoise, puisque c'est surtout le Danemark et la Suède tirent leur épingle du jeu. Là, ils sont en train de plonger, n'est-ce pas ? Disons qu'il y a un certain renouveau, notamment dans l'histoire, puisque effectivement, Royal Affair, mais aussi des films scandinaves, polonais et même biélorusses sont en train de travailler sur leur histoire. Et donc, c'est vrai que comme nous, pour nous autres, Européens du Sud, c'est vraiment pas une histoire qu'on connaît beaucoup. Donc je pense qu'il risque d'avoir beaucoup de films costumés qui vont sortir dans les prochaines années. Donc là, on attend surtout le renouveau du cinéma scandinave.
Eh bien, voilà. Rendez-vous au Pestel.
Voilà, c'est ça. Au rendez-vous au du Pestelisme. Alors, nous avons 4 films. Ah oui, parce que...
4 ?
Oui, 4. Oui, 4, comme 2 fois 2. Avec 10, 11, 12, nous irons... Pougne l'Hérisson.
Non, c'est 3 courts-métrages, en fait. Des studios Folle Image de Valencia.
Voilà, d'accord.
In the Drome.
Voilà, avec Nikita Le Tanneur.
De Louis Tcherenkov.
Tcherenkov, da.
Alors, c'est la princesse du royaume qui est enlevée, hein, Gwen. Oh,
merde.
Non, tu dis pas ça, c'est pour les petits-enfants.
Ah, oh, mercredi.
Par le terrifiant dragon Zmeg Gorinich.
Ah oui.
Oui.
Ah oui.
Donc, connu pour ses prouesses physiques, Nikita Le Tanneur, hein.
Et oui.
Et pas Nikita de Besson.
Oui. Ni Nikita Khrouchtchev d'ailleurs.
Est désigné tout naturellement par le village pour le combattre et sauver la demoiselle.
Et bah oui, comme un
il
grand.
Il dira qu'il faudra user plus de la ruse que de la force.
Ouais, c'est souvent avec les enfants. Hein.
Le deuxième, c'est.
Tout compte fait avec un subtil jeu de mots.
Donc, c'est un roi et une reine qui n'arrivent pas à marier leur fille. Oh. La princesse donc s'enferme alors afin qu'un prince charmant vienne la délivrer. Mais à quel prix, monsieur Gwen ?
Oh là là ! Terrible. Il y a le Togne de Pougne.
Oui. Donc tous les livres du royaume se
liguent.
Non, se vident étrangement de leur histoire. Aussitôt, le bon roi Balthazar s'ennuie à mourir, entraînant avec lui son peuple tout entier dans une profonde déprime, car c'est encore la faute de Boniface le Conteur.
Ah, Boniface. Oh, et comment il va, Boniface?
Lance Pougne le Hérisson Grognon.
Ah, ça te va bien, celle-là, tiens.
Donc, ces scénarios, donc, ils sont quand même futés. Merci. Graphisme et animation raffinés, la nouvelle livraison de Folle Image maintient son niveau de qualité et de perfection. Non, de perfect adaptation aux très jeunes spectateurs.
Oui, c'est dès l'âge de 3 ans. Hein.
Oh bah tu vas pouvoir y aller.
Oui, oh bah, c'est même déjà trop vieux.
Pour avoir vu The Croods.
Oui, voilà, c'est ça. Très, très bien d'ailleurs. Ensuite, il y a L'écume des jours de notre cher Michel Gondry.
Non, c'est de Boris Vian.
C'est une adaptation du roman de Boris Vian. Faut avec le, dire, le célèbre duo Audrey Tautou et Romain Duris que nous avions vu déjà dans l'auberge espagnole. Évidemment, les poupées russes.
Au Marseille.
Au Marseille, Gad Elmaleh. Donc, il joue les compagnons de ce cher Romain qui joue le héros. Et voilà, qui est obligé de sauver sa douce. Là aussi, encore une histoire de sauvage, de princesse.
C'est pas du tout ça, le cisne. C'est l'histoire surréelle et poétique d'un jeune homme idéaliste et inventif, Colin, comme le poisson.
Oui, c'est ça.
Qui rencontre Chloé, une jeune femme semblant être l'incarnation d'un blues de Duke Ellington.
Yeah. Bah oui, Boris Vian. Forcément.
Leur mariage donc tourne à l'amertume quand Chloé tombe malade d'un nénuphar qui grandit dans son poumon.
Comme tout un chacun.
Donc pour payer ses soins dans un Paris fantasmatique, Colin doit travailler dans des conditions de plus en plus absurdes.
Mm-hmm. Oui,
donc pendant qu'autour d'eux, leur appart se dégrade, etc. Et le groupe d'amis se délie. Donc l'opération était délicate, hein, monsieur. La greffe est très réussie, mais bon. Si L'écume des jours est un film à voir, il restera aussi un chef-d'œuvre inadaptable.
Mm-hmm.
À l'écran, donc ça vole, ça piaille, ça fourmille, des détails parfois jusqu'à l'overdose.
C'est ce qui me semble. Effectivement, ça a l'air d'être un petit peu fouille-fouille, comme on dit.
Comment ça, la foire-fouille, tu vas dire ?
Oui, c'est ça, la foire-fouille, c'est-à-dire que c'est un petit peu too much. Voilà, c'était
ce
bien.
Mec est trop.
Ouais, ce mec est trop. Oui, parce que ça, c'était bien dans la séance des rêves, mais là, je pense que c'est le un petit peu trop de Monsieur Gondry. Mais je pense que les lecteurs de Télérama se rendent compte. Il y a un film American, The Promised Land, de Gus Van Sant, avec Matt Damon, John
Krasinski,
voilà.
Rosemary DeWitt et Frances McDormand.
Oui, effectivement, sur le gage de schisme. Hein, c'était ça quand même.
Oui, je te perfore des trous.
Voilà.
Donc Steve Butler, joué par Mr. Matt Damon.
Mm-hmm.
Représentant d'un grand groupe énergétique, se rend avec Sue Sampson dans une petite ville de campagne. Les deux collègues sont convaincus qu'à cause de la crise économique qui sévit, les habitants ne pourront pas refuser leur lucrative proposition de forer leurs terres pour exploiter les ressources énergétiques qu'elles renferment. Ce qui s'annonçait comme un jeu d'enfant.
Cap.
C'est ça, oui. Il va pourtant se compliquer lorsqu'un enseignant respecté critique le projet soutenu par un activiste écolo qui affronte Steve, aussi bien professionnellement que personnellement.
Eh oui, chercher la femme.
Donc c'est une trajectoire du côté obscur de la cause environnementaliste qui est surtout pour Vincent le socle à un tendre tableau de l'Amérique profonde des small towns.
Yeah.
Dont il ausculte ici le désarroi et la vibration avec une infinie douceur.
Parce qu'effectivement, le personnage de Matt Damon est issu d'un de ces petits endroits des États-Unis. Et c'est pour ça qu'avec sa collègue, ils sont les champignons du monde de la vente. Et c'est pour ça qu'on les envoie là-bas. Et effectivement, là, ils vont se retrouver devant un prof qui, en fait, ne sera pas vraiment le porte-étendard et un écologiste. Voilà, je n'en dirai pas plus.
Oui, c'est surtout du cinéma comme les Américains en font malheureusement en moins. Simple à défaut d'être simpliste. À hauteur d'homme et grandeur d'âme. Passons au film dernier.
Ouais, super. La traversée
d'Elisabeth Levray. En fait, chaque été, ils sont nombreux à transiter par la mer entre la France et l'Algérie, monsieur Gwen. C'est ce film-là.
Voilà, c'est ça. Oui, parce
entre Marseille et Alger.
Il y a le film avec Michael Youn qui s'appelle aussi La traversée.
C'est cela, oui. Des voitures chargées jusqu'au capot, des paquetages de toutes sortes, des hommes chargés de sacs et d'histoires. En mer, nous ne sommes plus en France et pas encore en Algérie. Et vice
versa.
C'est bien. Dans le huis clos singulier du bateau, dans le va-et-vient et les parenthèses de voyage, la traversée replace, oui c'est ça, au cœur du passage, ces femmes et ces hommes bringue-ballés. Donc le savant dosage entre verbe et image, entre détail, incident et atmosphère générale, entre confidence et brouhaha, font de ce film un modèle du documentaire. Donc de couloir encombré au bastingage venteux. La demoiselle, donc la réalisatrice, a tourné l'un des plus beaux films sur l'immigration de ces dernières années.
Et bah, c'est très bien.
Donc la semaine prochaine.
Alors la semaine prochaine, mon cher Hugo, nous allons faire un hommage à un autre art.
Le ping-pong ?
Non, le ping-pong n'est pas un art, c'est un sport. Enfin, le sport peut être un art, mais pas que le ping-pong. Non, je fais référence au théâtre. Nous allons parler des adaptations du théâtre au cinéma. Les Cyrano, les Shakespeare.
Le prénom.
Le prénom, oui.
Cuisine et dépendance.
Voilà, aussi, la main au collet. Et bien, sur ce, mes chers amis, nous allons tirer le rideau.
Et clore la Scandinavie.
Voilà, tout à fait. Allez, eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, merci de votre écoute.
Au revoir.
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
You talking to me?
Go ahead. Make my day.
I love the smell of napalm in the morning.
Life is like a box of chocolates.